Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Landrine Gang, co-référent du livret Quartier populaire pour la France insoumise. Bonsoir.
Bonsoir.
Landrine Gang, Jean-Luc Mélenchon publie cette semaine L'Avenir en commun, le livre programmatique de l'Union populaire. Vous avez vous-même travaillé sur le livret Quartier populaire. Ce programme concerne notamment la planification écologique, le protectionnisme solidaire, la Sixième République. Ce que propose Jean-Luc Mélenchon, c'est un changement de société à partir de 2022.
Bien sûr, c'est un changement en profondeur de la société qui se base sur le même constat qu'on avait en 2017. Et ce qui est assez incroyable, c'est que le constat qu'on avait posé et les diagnostics et les solutions qu'on propose sont toujours d'actualité. Par exemple, on constate que avec la crise sanitaire, les gens avaient des problèmes de logement parce que leur logement était trop petit, trop insalubre. Ce qu'on propose, c'est de construire plus de logements sociaux à hauteur de 500 000 par an pour proposer aux gens des logements à leur convenance. Ce qu'on proposait également, c'est l'augmentation du SMIC, parce qu'on considérait que le SMIC aujourd'hui à 1200 euros était insuffisant. On propose de le monter à 1400 euros net. Et ce qu'on a constaté, à partir du mois de août, où on a demandé une étude par rapport à un sondage par rapport à notre programme, c'est que les gens sont majoritairement d'accord avec les propositions qu'on fait. Quand on demande aux gens s'ils sont pour augmenter le SMIC à 1400 euros, 8 Français sur 10 nous répondent que oui, ils y sont favorables. Quand on propose, par exemple, que les retraités touche une pension minimum au SMIC, 8 Français sur 10 sont aussi favorables. Donc c'est ce changement-là de société qu'on propose, une société plus redistributive, plus écologique évidemment, et plus démocratique avec la Sixième République.
Landrine Gang, les Insoumis organisent une grande distribution de ce programme de Jean-Luc Mélenchon vendredi devant les universités, samedi et dimanche dans toute la France. Avec ce livre L'Avenir en commun, vous espérez que cela va relancer la campagne de Jean-Luc Mélenchon ?
Bien sûr. Déjà, je tiens à dire que nous sommes le seul mouvement parti politique à présenter un programme depuis le début de l'élection présidentielle. L'élection présidentielle a lieu dans 6 mois et nous ne connaissons pas le programme de Marine Le Pen qui est candidate, nous ne connaissons pas le programme de Anne Hidalgo qui est candidate, de Yannick Jadot qui est candidat et des autres potentiels candidats à la présidence de la République. Donc je trouve que c'est un problème démocratique majeur. Nous présentons notre programme qui sortira, comme vous l'avez précisé, dès demain en librairie et qui coûtera 3 euros. Et dans ce programme-là, l'objectif, c'est de fédérer le peuple. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on montre aux gens nos propositions, ils sont majoritairement d'accord avec nous. Donc nous, ce qu'on va leur proposer, c'est de dire, si vous êtes d'accord pour augmenter le SMIC à 1400 euros, si vous êtes d'accord pour faire des relocalisations de produits et sociales en France, si vous êtes d'accord pour que ceux qui touchent moins de 4000 euros par mois payent moins d'impôts, alors accordez-nous votre suffrage, votez pour Jean-Luc Mélenchon, rangez-vous derrière notre programme. C'est notre programme qui sera au centre de notre campagne, pas notre candidat.
Landrine Gang, Jean-Luc Mélenchon n'est plus le candidat de la France insoumise, mais de l'Union populaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette Union populaire ?
La stratégie de l'Union populaire, c'est de dire nous ne demandons pas aux gens de se déclarer insoumis, nous ne demandons pas aux gens de rejoindre la France insoumise pour faire campagne derrière notre programme. Ceux qui se retrouvent derrière notre programme, rejoignez l'Union populaire, nous ne vous demanderons pas plus. Diffusez notre programme, l'avenir en commun, organisez des actions, organisez des événements chez vous, dans votre quartier, pour faire connaître ce programme-là. Parce qu'on est certain que si les gens découvrent notre programme, s'ils arrivent à s'en emparer, ils seront d'accord avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon et avec notre programme. C'est un peu le message de l'Union populaire. C'est si vous êtes d'accord avec le programme, rejoignez cette union-là, ne faites pas de campagne que pour un candidat, faites campagne pour un programme.
Emmanuel Macron affirme que le pouvoir d'achat a augmenté sous son quinquennat, que la pauvreté n'a pas augmenté. Vous êtes en désaccord avec cette vision du chef de l'État ?
Manifestement, oui, la pauvreté a augmenté, plus 1 million de chômeurs, plus 1 million de personnes précaires, excusez-moi. Quand on regarde ce qu'a mis en place Emmanuel Macron avant, depuis le début de son quinquennat et pendant la crise sanitaire, les études nous disent que ce sont les personnes les plus riches qui ont obtenu du pouvoir d'achat, que ce sont les personnes les plus riches qui ont réussi à avoir le plus d'argent dans leur compte en banque. Donc manifestement, pour les gens d'en bas, les gens du peuple, non, Emmanuel Macron n'a pas été le président du pouvoir d'achat. Il n'a pas augmenté le SMIC, il n'a pas augmenté les retraites, il n'a pas augmenté les minima sociaux par de la redistribution des richesses. Emmanuel Macron a été, comme on le dit depuis le début du mandat, le président des riches et du pouvoir d'achat des riches.
Alors Jean-Luc Mélenchon veut adopter une loi d'urgence sociale. Il y aura des aides massives pour les personnes en situation de précarité dès son élection ?
Bien sûr. Notre objectif, c'est qu'à la fin du mandat, plus une seule personne ne vive sous le seuil de pauvreté. Pour ça, notre pays est déjà suffisamment riche et continue à être de plus en plus riche puisqu'on a de la croissance. L'objectif est de faire de la redistribution des richesses. Donc nous assumons que ceux qui gagnent beaucoup d'argent doivent partager beaucoup. Et lorsqu'ils partageront beaucoup, de notre côté, nous ferons de la politique redistributive. C'est-à-dire que, par exemple, nous ferons en sorte que les étudiants, pendant qu'ils étudient, aient 1 000 euros 63 précisément, dans leur compte en banque chaque mois pour qu'ils puissent se dédier entièrement à leurs études et pas qu'ils travaillent à côté ou qu'ils aient la peur de la fin du mois. Parce qu'on ne peut pas étudier dans de bonnes conditions quand on a la crainte de la fin du mois. Nous ferons en sorte que les personnes qui touchent le RSA soient au seuil de pauvreté au minimum pour faire en sorte que les gens ne vivent pas en dessous. Nous ferons en sorte que les retraités soient au-dessus du SMIC ou au minimum au SMIC. Parce qu'on considère qu'on ne peut pas vivre après une année, après une vie de travail en dessous de cette valeur-là. Donc oui, quand nous arriverons au pouvoir, nous ferons de la redistribution des richesses pour ne laisser personne de côté dans notre pays qui est très riche.
Landrine Gang, il y a 16 ans, en novembre 2005, les habitants des quartiers populaires, les jeunes, se révoltaient après la mort de deux jeunes, Ziad et Bouna. Je rappelle que vous avez contribué au livret de l'Union Populaire sur les quartiers populaires. Quel est le bilan d'Emmanuel Macron sur la question de ces quartiers populaires ?
Malheureusement, le président de la République n'a pas pris au sérieux cette question-là. Au début de son mandat, il avait commandé un rapport auprès de Jean-Louis Borloo, et ce rapport a été salué par beaucoup de maires, toute opinion politique, dans les quartiers populaires, parce que ce rapport préconisait des solutions structurelles pour endiguer les problèmes qu'on constate dans les quartiers populaires. Et ces problèmes-là, ils sont simples. C'est la pauvreté, c'est le chômage, c'est le manque de services publics. Qu'a fait Emmanuel Macron ? Il a pris le rapport et il l'a jeté, en disant que ce ne sont pas deux mâles blancs qui vont résoudre les problèmes des quartiers populaires. Et je le cite, au mot près. Donc non, malheureusement, Emmanuel Macron n'a rien fait pour les quartiers populaires. La situation est toujours terrible. La situation sociale est au plus bas. Nous, ce qu'on proposera, ce sera un grand plan pour les quartiers populaires et des politiques structurelles pour remettre en place des services publics au sein des quartiers populaires, pour remettre des perspectives d'avenir pour la jeunesse des quartiers populaires et pour recréer de l'emploi et de l'emploi valorisant pour les jeunes des quartiers populaires.
Et comment instaurer une vraie égalité des chances dans les écoles situées dans les quartiers populaires ?
Nous pensons que c'est avec l'investissement de l'État. Pendant la mandature, un rapport est sorti en Seine-Saint-Denis pour expliquer que le lycée le mieux doté de Seine-Saint-Denis n'avait même pas l'équivalent du lycée le moins bien doté de Paris. Si on arrive au pouvoir, on changera la donne. On fera en sorte que les lycées dans les quartiers populaires, mais plus largement même toutes les écoles, soient suffisamment dotés pour que les professeurs puissent mettre en place leur programme dans de bonnes conditions d'études. On fera en sorte que les classes ne soient plus à 30, mais à 20, voire à 15, pour faire en sorte qu'il y ait un vrai apprentissage dans ces écoles-là. Nous remettrons en place, en fait, du service public de bonne qualité, comme c'est partout ailleurs.
Jean-Luc Mélenchon, président, ce sera la fin des contrôles aux faciès, des bavures policières ?
Bien sûr, pendant le mandat, le député de la Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel, a fait une proposition de loi justement sur les récépissés et sur la fin du contrôle faciel. La majorité a refusé ce projet de loi. Bah, demain, Mélenchon au pouvoir, nous reproposerons cette proposition de loi et nous l'adopterons pour faire en sorte que les policiers, lorsqu'ils contrôlent quelqu'un, soient obligés de laisser un récépissé pour argumenter la validité ou non de ce contrôle-là. Et ça permettra déjà d'un côté aux policiers de réfléchir à est-ce que il y a une pertinence à réaliser ce contrôle, est-ce que je considère que cet individu a un comportement qui mériterait ce contrôle-là, et de l'autre côté aux personnes qui se sentent victimes de contrôle au faciel, de le prouver avec des documents à l'appui. Si une personne se fait contrôler 3-4 fois par semaine, elle pourra le prouver avec ses documents, avec ce récépissé qu'il y a un problème là, et ce sera plus facile pour la justice d'en témoigner.
Landry Ngang, d'une manière générale, comment Jean-Luc Mélenchon luttera-t-il contre les discriminations au logement, au travail par exemple ?
De manière concrète, c'est en lançant des politiques publiques. Moi, je pense qu'il faut jouer d'un côté sur la sensibilisation. Il faut, voilà, faire de la prévention sur ces questions-là à toutes les échelles de la société. Et de l'autre côté, il faut permettre à la justice, à la défenseur des droits et notamment au commissariat de prendre en charge et de prendre au sérieux ces questions-là. Par exemple, nous allons proposer un commissariat qui soit dédié aux questions de discrimination sexiste et raciste. Nous allons proposer qu'il y ait un parquet, une sorte de parquet, soit sur ces questions-là. Et ce seront des gens formés sur ces questions qui les traiteront. Nous pensons qu'en faisant ces deux tables-là, d'un côté de la prévention et de l'éducation, et de l'autre côté de la sanction, on pourra combattre petit à petit, parce que ce ne sera pas du jour au lendemain, il ne faut pas mentir aux gens, mais que nous allons pouvoir combattre petit à petit les problèmes de discrimination, que ça soit à l'embauche, au logement ou dans la vie de tous les jours.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la question du logement, la construction de 500 000 logements sociaux par an. Les Français sont très préoccupés par cette question qui représente un budget important. Il est particulièrement difficile de se loger quand on est jeune ou quand on est payé au SMIC. Ce sera un chantier important du prochain quinquennat et on pourra construire sans artificialiser les sols.
Bien sûr, parce que déjà, dans la construction, on pourra mettre en place de la rénovation. Parce qu'aujourd'hui, il y a des parcs sociaux qui sont dans de très mauvais états. Donc déjà, on pourra les remodeler, on pourra les remettre aux normes. Et d'un autre côté, on pourra construire sans artificialiser les sols en faisant de la destruction de logements sociaux qui sont des logements sociaux insalubres. Et ensuite, nous pourrons voir dans telle ou telle ville si nous pouvons construire ou non du logement social. Mais je pense qu'on pourra faire les deux, c'est-à-dire construire du logement social de bonne qualité, que ça soit social et environnemental, sans artificialiser les sols. Et construire du logement social, ça permet de retirer un certain point sur le budget des gens. Parce que comme vous l'avez dit, le logement, ça coûte extrêmement cher dans le budget des ménages. Donc construire plus de logements sociaux, c'est des logements à moindre coût et c'est aussi faire diminuer le prix du logement en général sur le marché.
Et comment convaincre les maires des villes riches de construire du logement social dans leur commune puisque les amendes, visiblement, ne les incitent pas à respecter la loi ?
Il faudra être beaucoup plus sévère dans les sanctions, c'est-à-dire des amendes beaucoup plus fortes. Ou tout simplement parce que l'État finance certains projets dans les communes riches, leur dire, bah écoutez, tant que vous n'êtes pas aux normes avec la loi, bah on va suspendre nos versements pour tel ou tel projet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une ville, un maire ne peut pas se soustraire à la loi. Si la loi dit c'est 25% de logement social dans toutes les villes de France, alors un maire doit se mettre aux normes. Et nous proposons d'ailleurs d'augmenter ce taux, de le passer, je crois, de 25 à 30%.
Landry Ngang, les débats en cette pré-campagne de l'élection présidentielle se concentrent sur l'immigration. C'est en tout cas le cas sur de nombreuses chaînes de télévision et de radio. Selon vous, quels sont les thèmes qui intéressent en priorité les Français et dont on ne parle pas assez ?
Quand on regarde les sondages, on voit que les thématiques qui intéressent le plus les Français, ce ne sont pas l'immigration, mais c'est ce qui se passe dans leur quotidien. Et la thématique qui les intéresse le plus, c'est le pouvoir d'achat. Parce que quand le frigo est vide, ce n'est pas la faute de l'immigration. Quand on galère à payer ses factures, ce n'est pas la faute de l'immigration. Quand il nous reste 50 euros à partir du 10 du mois, ce n'est pas l'immigration. Les gens ont envie de s'occuper de ces questions-là. Sauf que la droite et le gouvernement n'ont en réalité pas de solution à proposer. Donc ils préfèrent se concentrer sur l'immigration et de taper sur des gens qui ne demandent rien hormis vivre en sécurité et dignement dans notre pays.
Alors, vous êtes vous-même étudiant, Landry Ngang. Les étudiants ont beaucoup souffert lors de cette crise sanitaire. Est-ce que les réponses apportées par Emmanuel Macron sont à la hauteur et que propose Jean-Luc Mélenchon ?
Évidemment, nous, les étudiants, nous avons beaucoup souffert pendant cette crise sanitaire et nous avons été face à un gouvernement que je qualifie de mesquin. Un gouvernement mesquin parce que quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, les premières choses qu'il a réalisées, c'est 1. Supprimer l'ISF, donc rendre ou donner 4 milliards aux populations les plus riches, et baisser de 5 euros les APL. qui ont concerné les étudiants. Ce qui a été mis en place pendant la crise sanitaire, c'est-à-dire le repas Crous à 1 euro pour tous les étudiants, a été supprimé dès septembre pour les étudiants non boursiers. C'est une politique mesquine. Voilà, c'est des économies de rien du tout. C'est des décisions prises par des fonctionnaires assez déconnectés de la réalité étudiante. Et malheureusement, Emmanuel Macron ne porte pas et ne souhaite pas porter de vraies politiques de profondeur pour les étudiants. Nous, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous proposons un revenu de 1000 euros pour tous les étudiants, pour faire en sorte que chacun puisse étudier sans avoir à travailler à côté et qu'il puisse se dédier à 100% dans son apprentissage. Nous proposons de construire plus de logements Crous parce que ce sont des logements qui sont de bonne qualité et qui sont moins chers que le prix du marché. Nous proposons de rénover les constructions Crous qui sont déjà présentes sur le territoire français parce que malheureusement, on sait que certains bâtiments Crous sont en train de tomber en lambeaux et qu'il n'y a pas eu de grande politique de rénovation à ce niveau-là. Voilà ce qu'on propose aux étudiants. Ce sont des revenus stables pour qu'ils puissent se dédier à leurs études, des logements pour qu'ils puissent être tranquilles durant leurs études, mais également d'améliorer leur sort dans l'université en faisant un grand plan d'investissement dans les universités pour que leurs professeurs soient plus baladés de contrat court en contrat court, mais qu'ils soient titularisés et pour qu'ils aient des locaux de bonne qualité. Parce que moi, je suis à Paris 13 et je peux vous dire que nos locaux ne sont pas de très bonne qualité.
Alors Jean-Luc Mélenchon propose le droit de vote à 16 ans, même proposition d'ailleurs chez Anne Hidalgo. Pour quelle raison ?
Parce que moi, à titre personnel, j'ai entendu un argument qui m'a convaincu pour cette mesure, c'est de dire à partir de 16 ans, on peut se faire exploiter par un patron, parce que c'est l'âge légal à partir duquel on peut travailler. Il est donc normal de pouvoir participer à la vie de la cité. Moi, je trouve cet argument très correct. Mais surtout, on considère que 16 ans, c'est un bon âge pour commencer à s'intéresser vraiment aux questions de politique. Et comme on le dit, nous proposons d'ouvrir ce droit, le droit de vote à 16 ans. C'est-à-dire qu'une personne qui a 16 ans et qui souhaite voter puisse le faire. Une personne qui a 16 ans et qui ne souhaite pas voter, bah s'il souhaite s'abstenir pour X ou Y raison, on pourra le convaincre dès cet âge-là que ce n'est pas la bonne position. En tout cas, cette mesure, ça va servir à forcer, entre guillemets, les personnes de 16 ans à s'intéresser à la vie de la cité, à la vie politique, pour faire en sorte que l'abstention diminue progressivement avec l'âge.
Actuellement, les sondages sont très pessimistes pour la gauche en général. Si les jeunes votaient, si les habitants des quartiers populaires votaient, vous pensez que Jean-Luc Mélenchon pourrait accéder au second tour de l'élection présidentielle ?
Bien sûr, on en est convaincu. Vous savez, bon, pour l'instant, les sondages sont ce qu'ils sont. À 6 mois de l'élection présidentielle, la campagne commence timidement. Comme je l'ai dit, la plupart des candidats n'ont pas présenté leur programme, donc je peux comprendre, en plus avec la crise sanitaire, que les gens n'ont pas forcément la tête à l'élection présidentielle. Moi, je suis convaincu que les gens vont vraiment commencer à s'intéresser profondément à cette question à partir du mois de janvier. Et que progressivement, vous allez voir que Jean-Luc Mélenchon va monter dans les sondages parce que les classes populaires, qui aujourd'hui sont données à un taux d'abstention record, voire totalement inimaginable, sont tournées vers Jean-Luc Mélenchon et vers son programme parce que nous avons des solutions à leur proposer pour leur candidat. Pareil pour la jeunesse, qui va s'intéresser à la question des présidentielles sûrement dans les 2-3 derniers mois et qui vont voir que c'est Jean-Luc Mélenchon qui propose les solutions les plus concrètes, par exemple, pour répondre à la crise climatique. Donc moi, je suis totalement serein vis-à-vis des sondages pour l'instant et je suis convaincu qu'on va avoir une bonne dynamique de campagne parce que nous avons les solutions aux problèmes du quotidien et aux problèmes du réchauffement climatique.
Merci Landrine Gang. Je rappelle que vous êtes co-référent du livret Quartier Populaire pour La France Insoumise. Bonsoir.
Bonsoir à vous.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.